ta munition.
On fait demi-tour?
Non, il n'y a pas le temps.
Bon, il y a un mystère, je vous éclaircis.
Minute, ça va trop vite. On ralentit la cadence.
Dans 2 minutes, elle va devenir une... Une zombie, pas un vélociraptor.
Au moindre geste un peu louche, vous prenez une balle.
Temps au congélo.
A besoin de vous faire un dessin.
C'est
bonsoir à tous.
Je peux faire pareil avec ma bouche en fait que Persévérance sur Mars.
Oui.
Moi je pense que c'est un fake.
C'est possible, c'est possible. Mais en même temps, on ne prend pas mettre ça sur le... Ben non, on ne peut pas lui mettre sur le dos. Bonsoir à tous, vous écoutez. Vous êtes sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier. À Laval, c'est quoi, Laurent?
101.7.
Ouais.
Et donc, au bout de 6 ans, je retiens.
Oui, et donc c'est Le Masque et la Tronçonneuse, l'émission du mois de mars, où on va parler de Mars. On n'est pas. Vivement le mois de juin.
Et on vient d'entendre le son du vent sur Mars, enregistré par Persévérance.
Par Persévérance, ouais.
On a hyper reconnu. Enfin, moi, quand j'entends ce son-là, je sais que je suis sur Mars.
Oui, oui, bah, avec la photo, c'est encore mieux. Voilà. Donc Mars, tellement loin, mais en même temps tellement près. On dirait un match de foot. Donc la 4e planète du système solaire, hein, Laurent, tu me contredis si je dis des conneries.
Je n'hésiterai pas une seule seconde.
Qui est à peu près grande comme la moitié de la. Enfin, qui fait la moitié du diamètre de la Terre, où la journée se déroule en. Là, je lis, hein, je lis. La journée se déroule en 24 heures 37 minutes, donc c'est un peu mieux que chez nous. On a un peu plus de couvre-feu. Et puis, par contre, l'année dure beaucoup plus longtemps, puisque l'année dure presque 687 jours. Voilà. Et donc là, on va parler de Mars.
L'année martienne dure 2 ans.
L'année martienne, non, dure 1 an l'année martienne, quand tu es sur Mars.
Oui, mais quand tu es sur Terre.
Ça fait 2 ans. D'ailleurs, je me dis que quand il y aura du monde là-bas, ça va être un peu compliqué de régler les montres. On se revoit l'année prochaine.
Bah, c'est surtout les anniversaires, la durée de vie va être diminuée de moitié.
C'est ça, c'est ça. Autrement que dire sur Mars, on va parler de Mars parce qu'on est en Mars et que l'actualité sur Mars est assez, assez riche, puisqu'on vient d'entendre Persévérance. Il y a une présence humaine, on va dire, une présence liée à l'homme sur Mars depuis maintenant 45 ans, avec, comme beaucoup, dans beaucoup de cas, de la conquête spatiale par un premier exploit soviétique, avec les sondes Viking, qui sont arrivées en 76 sur Mars, et qui étaient à l'origine faites pour préparer l'arrivée des Russes sur Mars. Une planète rouge oblige, peut-être, je ne sais pas. Mais ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Alors depuis, ça a changé. C'est pas les communistes qui vont aller sur Mars, mais c'est les capitalistes, sans doute. Encore honnêtement, j'y crois pas trop. J'ai entendu avant-hier qu'il y avait un projet russe et chinois commun entre les Russes et les Chinois pour une base orbitale sur la Lune. J'y crois un peu plus que l'homme sur Mars. Moi, honnêtement, oui. Je pense pas que de mon vivant je verrai un homme sur Mars. Après, Steve Bezos, si c'est les 96% de CO2 de Mars qui l'intéresse et l'effet de serre, le fait qu'il n'y ait plus d'oxygène. Il suffit qu'il attende un peu avec le nombre de colis qu'on expédie avec le logo de sa boîte. Normalement, ça devrait arriver dans pas très longtemps, je pense.
Oui, mais c'est Elon Musk.
Oui. Non, les deux veulent y aller. Hein, les deux veulent y aller.
Ah, les deux, voilà. D'accord.
Mais je signe tout de suite, hein, je leur file le billet, cassez-vous. Mais bon, voilà. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de cinéma. Hein, Laurent?
Ah, mais oui, c'est une émission de cinéma, c'est pas une émission scientifique. Je me suis encore trompé. Bon, ça tombe bien, parce que je suis nul en science.
Oui, et en cinéma, y a quelques films qui sont liés de près ou de loin à la planète Mars. Et
ce soir, on va parler de ceux qui sont plutôt près. Enfin, plutôt liés de près que de loin.
Oui, mais et il y a quand même beaucoup de films assez moyens, en fait, sur Mars, étonnamment.
Et oui. Et c'est pour ça qu'on a choisi ceux qui nous ont le plus plu.
C'est ça.
Parce que c'est nous qui décidons ce qu'on met dans nos émissions.
On fait ce qu'on veut.
Exactement.
Après, le Joël, le programmateur, peut nous couper, mais ce soir, il ne le fera pas.
Non, on est en direct. Sinon, il aurait des comptes à rendre. Alors ce soir, on va parler de quatre films en particulier, mais on va en parler d'autres, hein, mais quatre films qui ont retenu notre attention, qui, comme d'habitude, ne sont pas des films super récents. Il y aura Total Recall, il y aura Mars Attack, il y aura Seul sur Mars,
il y aura
Capricorn One, c'est ça que tu m'as dit ?
Non, c'était Planète Rouge.
Planète Rouge, je me suis trompé.
Planète Rouge qui, pour le coup, on en reparlera tout à l'heure, mais fait partie un petit peu de mes plaisirs honteux, on va dire. Je sais très bien que ce n'est pas un très bon film, mais je le regarde sans trop de déplaisir, en fait. Voilà. C'est peut-être déjà bien.
Eh ben, c'est pas mal, parce qu'il y a quand même des films qu'on regarde en s'ennuyant fortement.
C'est ça. Sur Mars. Bah, comme Ad Astra, par exemple.
Alors, c'est marrant parce que c'est forcément le premier qui me vient à l'esprit, mais il y en a eu d'autres.
Ouais, parce qu'on en discutait en préparant l'émission, et Ad Astra, ça fait partie des films. Alors, Ad Astra, que je ne dise pas de conneries, donc c'est un film de James Gray qui est sorti en 2019 avec Brad Pitt, que j'ai vu au cinéma, que j'avais bien aimé au cinéma, et puis après, c'est comme plein de choses, en y repensant, en digérant un peu le truc, je me rends compte que c'était ce que toi tu as vu assez rapidement, c'est que c'était quand même une grosse arnaque.
Moi, c'est en voyant le film. C'est à la fin du film, je me suis dit, j'ai perdu du temps.
Voilà.
Fortement du temps.
Bah, un, oui, film un, peu... un film prétentieux et avec vraiment beaucoup d'incohérences.
Beaucoup d'incohérences.
Beaucoup de facilité.
Oui, de facilité. Puis un film qui ne s'est jamais positionné entre drame familial, science-fiction. Film d'action, très peu, en fait, finalement. Alors qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de peut-être plus dynamique, ça c'est mon avis. Et puis bourré aussi de poncifs, quoi. Et, oui. Et le film, ne m'a surpris à aucun moment, mais m'a fortement ennuyé. Par contre, je me suis vraiment ennuyé. C'est assez rare sur un film de science-fiction que je m'ennuie. Et celui-ci, en particulier, m'a gonflé grave, même si la distribution est bonne, c'est dommage. On se demande ce que Brad Pitt a fait pour échouer dans un film pareil. Il a dû être puni, il a perdu un pari, il y a un truc.
Il est producteur.
Il a perdu un pari, alors.
Il est producteur. Après, moi, j'ai appris des trucs intéressants dans ce film, comme le fait que sur les fusées, on installe une trappe de secours au niveau des tuyères, ce qui est relativement efficace si les moteurs sont arrêtés.
Tout à fait.
Sinon, ça...
Il est bien connu que quand tu veux t'échapper ou quand tu veux monter à bord d'une fusée spatiale, tu passes par les réacteurs.
Oui, c'est un peu comme installer une sortie de secours sous la ligne de flottaison sur un bateau, quoi, à peu près.
Oui, ça se fait, ça, sur les sous-marins. Je dis n'importe quoi, il faut quand même le préciser, je n'en sais rien.
Non.
Écoute, je te propose d'ouvrir les hostilités, cher ami, avec Total Recall.
Avec Total Recall un film, pour moi, Total Recall, déjà, c'est un petit peu un dinosaure parce que c'est le dernier gros film sans image de synthèse, en fait. Le dernier gros blockbuster sans image de synthèse. C'est un film de Paul Verhoeven avec un casting plutôt sympa. Sachant que le casting est sympa parce que aussi Schwarzenegger a bouffé tout le pognon pour engager des acteurs. Donc résultat, ils ont trouvé des acteurs qui étaient vraiment très bien, mais relativement inconnus. Même Sharon Stone à l'époque était assez était pas très connue. Elle avait fait, je crois, Alan Quatermain et Les Mines du Roi Salomon, c'est à peu près tout. Autrement, il y a Rachel Ticotin qui joue la résistante sur Mars. Qui va accompagner Douglas Quaid, qui est le héros, qui est joué par Arnold Schwarzenegger, qui est une montagne de muscles, comme dans tous ses films. Sauf que dans ce film-là, c'est quelque part le seul personnage un peu fragile, puisque Sharon Stone, elle est sacrément badass dans le film. Après, il y a Rachel Ticotin aussi qui assure à mort. Elle assure d'ailleurs un petit peu plus que Sharon Stone. Je pense à Une balle dans la tête, notamment. Et puis, il y a Michael Ironside qui joue le géant et qui tombe... à bras raccourcis sur Schwarzenegger, sauf une fois. Et autrement, il y a Ronnie Cox qu'on a vu dans surtout Deliverance et qui joue aussi, qui avait déjà joué dans le film précédent de Paul Verhoeven, qui jouait le méchant Dick Jones, le promoteur de l'ED-209 dans le précédent film de Paul Verhoeven, Robocop, qui est un chef-d'œuvre, Robocop, et plus le temps passe, et plus cette société est en train de sombrer, et plus Robocop apparaît comme un film visionnaire.
Un film qui a 35 ans maintenant. Hein.
Un film qui a 35 ans et qui...
1987, effectivement.
qui décrit bien toutes les joies de des privatisations, de la sous-traitance et des violences en tout genre de la société. Donc bref, et c'est un très bon film d'action, un très bon film popcorn aussi. Voilà. Donc Total Recall, c'est un film qui a eu un développement assez compliqué parce que c'est un film en fait qui est adapté d'une nouvelle de Philippe K. Dick, Souvenir à vendre. Qui a participé au scénario, mais sur les premières versions. Parce que Philippe K. Dick est mort quelques semaines avant la sortie de Blade Runner en 82, de mémoire. 82. Et donc, le film Total Recall a été développé au départ grâce aussi à Dino De Laurentiis, qui est un gros producteur, qui est un producteur énorme, à l'époque en tout cas. Mais le film s'est retrouvé un peu sur une voie de garage parce que Laurentiis a enchaîné plusieurs beats majeurs, dont L'année du dragon, Maximum Overdrive, qui est le premier et le seul film de Stephen King, Le sixième sens, pas Le sixième sens de Shyamalan, mais Le sixième sens inspiré de la saga Hannibal.
Hannibal Lecter, oui, c'était le premier, ouais. Le premier film.
L'année du dragon et Le sixième sens, d'ailleurs, sont de très bons films. Ce sont des films que moi, j'aime beaucoup. Et après, un nanar abyssal, King Kong 2. Et là, vraiment, la société de Dino De Laurentiis a bu le bouillon. Et donc, Total Recall n'a plus de budget. Les décors qui avaient été développés parce qu'ils ont été détruits. À l'époque, ils pensaient à Patrick Swayze pour le rôle de Quaid, ce qui était plutôt pas mal, parce que Patrick Swayze, c'était comme parce qu'il est décédé, le mec qui sait tout jouer. Voilà. Et dans les années 80, donc il y a Arnold Schwarzenegger qui est un acteur qui monte, hein, puisqu'il a fait Conan le Destructeur, Kalidor, Le Contrat, Conan le Barbare, tout ça. Et
Commando.
Kalidor, Commando, qui, malgré le côté kitsch sympa, c'est quand même une grosse merde de Commando quand même.
Il vaut que par ses que par ses répliques qui sont devenues. Du culte par leur côté tellement nanar que...
Nanar, ouais. Sachant que c'est drôle maintenant, on sent de l'humour, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de l'humour, c'était du premier degré quand même, je pense.
Ah oui, hein, c'est pas... ça qui est drôle.
Mais il y a aussi la mort d'un mec qui se fait péter le cou et qui, une fois qu'il est mort, lève les bras. C'est un film assez drôle quand même, mais bon, c'est tout à fait dispensable. Et donc, comment Schwarzenegger cherche des projets et tombe sur le scénario de Terminator qui a été abandonné. Donc il va récupérer le projet, il va le porter, l'amener à la Caroloco qui produit Terminator, et il veut vraiment trouver un réalisateur qui a le vent en poupe, quelque chose de novateur. Il a vraiment porté le projet, donc c'est Paul Verhoeven qui va être choisi. Le film prend son développement. Paul Verhoeven n'aime pas la science-fiction, ce qui est quand même assez, assez paradoxal. Le scénario de Robocop avait été foutu à la poubelle, mais là il s'attaque au projet de Total Recall. Le film aura un budget assez conséquent, 60 millions de dollars, 70 millions même d'annoncés, enfin de... En off, a priori, c'est un des films les plus chers de l'histoire du cinéma à l'époque. Une grosse partie a été engloutie par, donc, ce que je disais, par le salaire d'Arnold Schwarzenegger. Et donc, le film sera tourné en 1989 au Mexique. D'ailleurs, j'entendais dans une interview que tout le monde était malade sur le plateau, sauf Arnold Schwarzenegger, qui, comme il était la star du film et qu'il avait les moyens, faisait venir sa bouffe et le cuistot directement des États-Unis. Ce qui fait qu'il a été malade qu'une seule fois, c'est quand son cuistot était absent et qu'il a été obligé de bouffer avec les autres. Mais Paul Verhoeven disait qu'en permanence, 10 à 15% des gens qui travaillaient sur le film étaient malades. Voilà. Ils étaient intéressés par les décors qui sont assez sympas aussi, les décors assez modernes de la ville de Mexico City, avec toutes ces grands bâtiments en béton brut, en fait, ce qui est notamment le métro qu'on voit dans le film, avec la scène spectaculaire où Schwarzenegger passe devant un écran à rayon X pour voir s'ils ont des armes sur eux.
Et oui, alors pour l'époque, c'était fou, ça.
C'était fou. Et le film, d'ailleurs, comporte beaucoup d'effets spéciaux assez dingues et assez bien foutus. Surtout que c'est des, je répète, hein, c'est des effets spéciaux mécaniques. Maintenant, on peut regarder ça avec un côté un peu kitsch, mais c'est quand même très sympa. Moi, je sais que j'ai été très bluffé quand le sidekick de l'histoire, qui se révèle en fait être un salopard, enlève son faux bras humain et qu'on découvre un bras mutant extraterrestre qui est très très bien fait. On voit maintenant que son épaule est plus large, tout ça, on voit très bien quel procédé est utilisé, mais ça reste quand même impressionnant. Faut bien voir que maintenant on fait des pauses et des arrêts sur image on peut faire ça pour voir les effets spéciaux. Quand on est au cinéma, tout ça, ça passe tranquille, quoi. Voilà.
Ouais. Donc, moi, c'est ce qui m'avait bluffé, c'est quand il enlève son masque de femme là, et que le truc se déplie et se replie. Enfin, je sais pas si la scène est bien connue, mais à l'époque, moi, ça m'avait complètement bluffé. Alors à l'époque, forcément, j'étais pas vieux, mais
non. Et puis il y a aussi la scène où il se sort la sonde du nez avec une pince, là, qui est assez spectaculaire. Il y a le robot taxi aussi, qui est très sympa. Il y a plein de choses au niveau des effets spéciaux. C'est réalisé d'ailleurs par Rob Bottin, qui avait aussi réalisé de mémoire les effets spéciaux de Robocop et les effets spéciaux notamment de The Thing.
The Thing,
Qui sont.
On en parle souvent de Rob Bottin. Hein.
Oui. Oui, bah oui, parce que moi, The Thing, quand j'ai su qu'il avait 24 ans, qu'il gérait une équipe de 40 personnes pour avoir un résultat à l'écran comme ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Ça reste du cinéma, hein. Il n'a pas inventé un vaccin non plus, mais, mais c'est quand même extraordinaire, moi, je trouve. Voilà. Et donc, Total Recall. Oui.
Oui, non, je te laisse finir, puis je viendrai amender.
Total Recall raconte l'histoire de Douglas Quaid, qui est d'ailleurs, ça c'est un des trucs qui est pas très crédible dans le film. Le mec, il est ouvrier de chantier, puis il a un appart, mais qui déchire quand même. Hein. Bon, alors qu'il fait du marteau piqueur toute la journée. Tant mieux, si le futur est comme ça, moi femme. Je suis tout de suite. Hein. Et donc, Doug Quaid est un ouvrier de chantier qui vit, je ne sais plus en quelle ville ça se passe, je crois que c'est Los Angeles d'ailleurs. Et tous les soirs, il rêve de Mars. Et il propose à son épouse, qui est jouée par Sharon Stone, d'aller voir une société, Recall, qui offre des vacances, mais sans avoir à se déplacer, puisque Recall implémente les souvenirs qu'on choisit dans notre tête. Voilà. Et malgré les avertissements de tout son entourage, Doug Quaid va y aller quand même. On lui dit qu'il y a des personnes qui ont été lobotomisées. Bref, il y va quand même et il choisit une mission sur Mars. Voilà. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand il est anesthésié, qu'il s'endort, on voit très bien que ce qu'il choisit, en fait, c'est ce qu'on va voir après dans le film. Ce qui fait que dans le film, une fois qu'il sort de chez Recall, ça s'est mal passé, tout ça. Il se retrouve au milieu d'un complot. Ses potes, en fait, ce ne sont pas ses potes, mais ce sont des agents qui sont chargés de le surveiller, y compris sa femme. Donc, il se retrouve au milieu d'un complot, ça tire dans tous les sens. Il part sur Mars parce qu'il se rend compte qu'il est un des responsables de la résistance sur Mars, parce que Mars est géré par une entreprise privée qui privatise l'air. Donc, c'est marrant quand même, c'est bizarre comme façon de faire. Chacun vit sous terre, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'atmosphère sur Mars, non. Logique, c'est logique. Des personnes ont développé des mutations aussi sur Mars. Donc, en gros, il y a une opposition entre les capitalistes et puis les mutants qui vivent un peu cachés, et les mutants qui ont développé des mutations suite au fait qu'ils aient respiré pendant longtemps un air vicié, en fait. Donc, voilà. Et donc, Doug Quaid va débarquer là, va foutre le bordel, va libérer Mars, mais à la fin du film, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé, en fait. On ne sait pas s'il a vraiment libéré Mars.
À aucun moment, on ne sait si on est dans ce souvenir implémenté ou si on est dans quelque chose qui se révèle être effectivement un complot. C'est ça qui est génial dans ce film. Et c'est là où la patte Philip K. Dick, je trouve, est fabuleuse. On le retrouve complètement dans sa dynamique d'écrivain total foutrac des années 70, quoi. C'est qu'il nous perd, il nous emmène, et puis on en pense ce qu'on en veut, c'est pas son problème.
C'est ça. Et le fait qu'on voit quand Doug Quaid s'endort et qu'on voit les personnages qu'il va rencontrer plus tard sur Mars, on peut, on, même là, on ne sait pas si c'est un souvenir, si c'est réel, si c'est voilà, on sait rien. Et à la fin, on ne sait pas s'il a vraiment libéré Mars ou pas. Après, le film en lui-même est très bien. C'est un bon film d'action. Verhoeven y va. C'est sacrément gore quand même comme film. Ça pisse bien le sang. Et le propos, comme un peu moins que Robocop, mais comme est très intéressant sur ce qu'il raconte sur la société en fait. Avec le le personnage de gros salopard qui est Coagen. Voilà.
Oui, et puis ce côté effectivement des entreprises qui vont jusqu'à privatiser l'air, parce que quand même, comme ils privatisent l'air leur appartient, donc comme elle leur appartient, ils peuvent couper l'air comme on coupe l'électricité ou l'eau, quoi. Et oui. Ça, c'est terrible, parce que c'est aussi un moyen de pression sur les masses, en fait, sur les pauvres.
Sur les pauvres, ouais. C'est ce que Coagen fait dans le film, et c'est qu'à un moment, il coupe l'oxygène, enfin, il coupe l'arrivée d'air aux pauvres des quartiers défavorisés, et il va les laisser crever. Il pourrait être président de Nestlé-Sonec, je pense.
Alors, il y a une chose quand même qu'on va pointer, parce que moi, elle me tient à cœur. C'est que le scénario, effectivement, Philip K. Dick qui a participé, mais il y en a un autre qui a participé à ce scénario, c'est Dan O'Bannon.
Oui, au départ.
Dan O'Bannon, ce monsieur, il est quand même derrière Alien, le 8e passager, il est derrière Metal Hurlant, il est derrière Life Force de Tobe Hooper, de Planète Hurlante aussi, de Christian Duguay, qui est un film que j'avais beaucoup aimé. Et donc, c'est aussi un très très bon scénariste. Donc, allié à Philip K. Dick, forcément, on ne pouvait avoir qu'un très bon résultat.
Voilà. Ça plus Verhoeven.
Plus Verhoeven, ouais, tout à fait.
Et Verhoeven, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Verhoeven célèbre, quand il raconte le tournage avec Schwarzenegger, ce qu'il y a d'étonnant justement avec Schwarzenegger, c'est que c'est quelqu'un, il le décrit comme une personne sans égo, contrairement à beaucoup de stars hollywoodiennes. Et beaucoup de stars hollywoodiennes qui participent à la production d'un film et qui se mettent en valeur, ce qui souvent abîme un peu le film. Je pense notamment à iRobot de Proyas avec Will Smith, où Will Smith se met systématiquement en valeur, on sent qu'il produit le film. C'est moi qui mets le pognon, je veux que ça se voit. Et Schwarzenegger, non. Il a toujours défendu Verhoeven, parce que c'est vraiment lui qui porte le film, Schwarzenegger. Il a toujours défendu Verhoeven, mais il n'a jamais fait chier quand Verhoeven lui dit que ça ne va pas, qu'il faut faire autrement. Il s'y plie. Alors que, d'après ce qu'il raconte, le tournage avec Sharon Stone était un peu plus sport. Ouais. Ce qui l'empêchera pas de l'embaucher 2 ans plus tard pour Basic Instinct avec le succès qu'on sait. Voilà. Et mérité. Voilà. Donc, voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans Total Recall aussi, c'est justement que c'est le dernier film sans image de synthèse. L'image de synthèse, ça va. C'est pas non plus. Un repousseur total, mais il y a un côté très sympathique à voir tous les décors qui ont été construits en dur, d'essayer de voir aussi comment, en filmant 2 fois le même décor, mais d'une façon différente, ça fait 2 décors, en fait, et tout ça. Et puis, en plus, c'est assez cohérent avec La vie sur Mars, parce que comme la surface est assez est inhabitable, les gens, forcément, ils vivent sous terre. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura une scène qui aura été poussée que Schwarzenegger a poussé pour qu'elle puisse se faire. C'est la magnifique scène du train où Schwarzenegger se rend à la mine par un train qui, pour le coup, est en surface. Et cette scène-là, à elle toute seule, aura coûté plus de $300 000. Donc c'est énorme quand même. C'est des maquettes, et c'est très bien fait. Oui. Parce qu'il y a un plan, c'était quand même pas courant à l'époque, il y a un plan où on voit Schwarzenegger dans le train, la caméra recule et puis on sort du train, quoi. Et c'est vraiment bien fait, ouais. Donc, voilà, moi, c'est un très bon souvenir. J'ai pris une vraie claque, mais comme avec quasiment tous les films de Verhoeven. C'est bourré d'ironie. C'est une très bonne adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick. Moi, voilà. Donc, voilà. Et donc, le film a été un gros succès au box-office. Mérité. Voilà. Et ce qui a permis à Paul Verhoeven de mettre en place la méthode Schwarzenegger pour son salaire sur ses films, c'est-à-dire que Schwarzenegger lui avait expliqué qu'il avait une méthode, c'était de doubler son salaire d'un film sur l'autre. Voilà. Et donc, pour Basic Instinct, Paul Verhoeven a demandé $5 millions pour le réaliser, ce qui est comme pas mal.
Merci, cher ami, pour cette petite explication de film. Je vais faire une
petite pause musicale.
Je me disais qu'on pourrait faire une petite pause musicale avant de retrouver nos martiens préférés sur Mars. Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Ah, j'ai pas. Vas-y, Joël.
C'est vas-y, Joël. C'est carte blanche à Joël.
Voilà.
Lost in the land of the living room, adrift in a world of interiors. It's serious. Who the hell would live in a house like this? Head deep in the basement, one foot on the pedal bin. This ain't easy. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you to come through. Saturday night, cabin fever in House Nation. This is one nation under a roof. Ain't that the truth? Damn this claustrophobia. Cause I should be disrobing ya. Yeah, in a woodland glade, with the wind in your face. Everybody in the place, listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long, and all day too. Yeah, I was waiting for you to come true.
serious. Oh yeah, it's serious.
Eh ben merci Joël pour cette pause musicale. Je t'ai envoyé d'ailleurs un petit message avec une demande pour le prochain morceau.
Là, c'était Jarvis. House of Us, House Musical Night Long. Voilà. C'était. Alors, l'autre radio, c'est la meilleure radio du monde, mais FIP, c'est pas mal quand même. Et puis, FIP en ligne a des mini-stations qui proposent du groove, de la pop, de l'électro et tout ça. Et c'est vraiment sympa. En plus, il n'y a pas de pub. Parce que la pub, c'est caca.
Voilà. Il paraît que ça finance des trucs, mais j'ai pas encore compris quoi.
Ouais, mais quand je vois ce que ça finance, autant qu'il n'y en ait pas. Je préfère payer des impôts et financer du public, mais bon. Ma redevance me va très bien.
Je te propose que nous partions à un réalisateur que moi j'aime beaucoup et qui, même si on a pu avoir des discussions autour de lui en disant qu'il y a eu du bon et du moins bon, je reste un admirateur fervent, c'est Tim Burton. Qui a réalisé un film qui est sorti en 1996 qui s'appelle Mars Attack. On ne pouvait pas être plus que ça dans le thème. Sauf que là, on ne va pas sur la planète Mars, c'est plutôt l'inverse, c'est Mars qui se pointe sur la nôtre, puisque le film part du postulat qu'on nous signale une invasion de soucoupes, enfin une arrivée massive de soucoupes volantes, plutôt, en provenance de la planète Mars sur notre planète Terre. Et forcément, le film est américano-centré de manière très volontaire et de manière très humoristique. Les Américains décident de leur faire un accueil historique
à l'américaine, et donc
à l'arrivée de la soucoupe volante, balancent des colombes de la paix avant de se rendre compte que peut-être c'est un signe de guerre et que les colombes se fassent désintégrer dans le ciel. Alors le film Enfin, ça va nous parler de l'invasion de la Terre par les Martiens. C'est une comédie de science-fiction, il faut être très clair. Tim Burton s'est grandement fait plaisir. Et c'est un film qui est sorti... alors ça, c'est marrant parce que c'est sorti, je pense, de manière un peu volontaire parce que les deux projets ont été menés de front. Quelque temps après Independence Day, ID4,
qui traitait... C'est marrant, c'est marrant, des fois, il y a des films qui sortent... Il y a deux films qui sortent sur à peu près le même sujet. Et quand c'est des films sur Mars, c'est très courant en fait. C'est pas la seule fois. On en reparlera tout à l'heure. Hein. Mais ouais, il est sorti en même temps qu'Independence Day.
Ouais, quasiment, ouais. Mais il le traite de manière complètement différente. Là où Independence Day, malgré ce qu'ait pu dire Roland Emmerich, traite les choses de manière extrêmement patriotique. C'est-à-dire, les Américains sont là et puis il n'y a que les États-Unis quasiment qui sont attaqués et donc ils défendent la Terre. Là, les Martiens foutent une grosse claque. au terrien. Alors, d'un côté, on a Independence Day qui dit. Alors, Independence Day, ce ne sont pas des Martiens, ce sont des extraterrestres. Mais d'un côté, on a Independence Day où on a un président américain qui est pilote d'avion et qui participe quasiment à sauver la planète. Là, on a un président américain qui se fait défoncer la tronche quasiment dans le premier quart d'heure du film, c'est Jack Nicholson. Et Tim Burton se fait un grand plaisir. D'ailleurs, il donne le ton, en fait, Tim Burton, à ce moment-là. C'est quand le chien du président aboie après l'extraterrestre. Et c'est la première victime, quasiment, je crois, du film, à part un troupeau de vaches. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le chien est quand même emblématique des valeurs américaines, puisqu'il est représentatif de la famille, du modèle familial américain. Donc, je pense que d'emblée, Tim Burton donne le ton de son film.
D'ailleurs, c'est un marqueur. Le chien meurt, c'est un bon film. Le chien s'en sort, c'est un mauvais film. Voilà. Mars Attack, le chien meurt, c'est un bon film. ID4, Independence Day, le chien s'en sort, c'est un mauvais film.
D'ailleurs,
Mad Max 2, le chien meurt, c'est un bon film. Belle et Sébastien, le chien s'en sort, c'est un mauvais film.
Ouais, c'est un bon marqueur. Ça pourrait faire on pourrait faire un thème d'émission là-dessus. Le chien s'en sort ou pas?
Pour Belle et Sébastien, je rigole.
D'accord. Donc, on a un film avec un casting de dingue. Hein. On a Jack Nicholson, effectivement, dans le rôle du président américain et dans le rôle de son sosie, mais les deux meurent. Donc, Tim Burton tue deux fois Jack Nicholson dans le même film, c'est quand même assez fort. On a Glenn Close, on a Annette Bening. Annette Bening qui était pressentie pour un autre rôle initialement, dont le...
dans la filmographie de Tim Burton, en fait, Annette Bening, je crois, devait occuper le rôle de Catwoman dans Batman Returns. Et suite à une chute de cheval, en fait, bah, c'est Michelle Pfeiffer. Et on lui en suit gré, enfin, je lui en suis gré, qui a récupéré le rôle. On a d'autres têtes d'affiche. On a Michael J. Fox qui joue un journaliste, rôle qui aurait dû être occupé d'ailleurs par Johnny Depp, qui a refusé le rôle.
Alors, Burton, c'est rare, parce qu'il est présent dans énormément de Burton. Quand même.
Oui, et curieusement, il a refusé celui-ci. On a Pierce Brosnan qui sortait des James Bond. On a Sarah Jessica Parker. On a Lisa Marie qui, à l'époque, était la femme de Burton, d'ailleurs. Donc, on a un casting de dingue.
Nathalie Portman.
Exact, Nathalie Portman qui joue dedans aussi, tout à fait. Oui.
Et puis Sarah Jessica Parker qui n'était pas encore complètement plastifiée.
Oui. Voilà. À savoir que le rôle de Jack Nicholson aurait dû être occupé par Paul Newman, qui finalement est revenu sur sa décision en s'interrogeant sur la violence du film. Bon, Paul. Et puis, on retrouve aussi Danny DeVito, on retrouve Danny Elfman à la musique, forcément. Et puis, on retrouve aussi Tom Jones, qui est un chanteur, crooner, hein, qui chante un des titres dans le film.
Qui est très bon, qui est vraiment très bon dans le film.
Très bon.
Et le générique de fin, c'est... Ouais. Enfin, c'est un de mes Burton préférés, Mars Attacks. J'ai eu la chance de le voir au ciné en plus. Enfin, c'est,
Oui, tout à fait, oui, pareil. Voilà. Et puis moi, je l'ai vu juste après ID4. Je suis sorti du ID4
aujourd'hui,
américain.
Pareil, ouais.
Mais c'est vrai que pendant une période, j'étais aussi persuadé que Tim Burton avait fait Mars Attacks en réponse à ID4, mais non, en fait, les deux projets ont été menés de front. Donc c'était ma légende urbaine à moi. On a des aliens qui ont. Alors oui, et. Le projet du film part en fait d'un truc tout bête, hein. c'est l'envie par un scénariste de faire un film sur une série de cartes à collectionner qui était très en vogue dans les années 60 aux États-Unis, avec ces tronches de martiens qui ressemblent à des gros cerveaux sous bulles, quoi.
Ouais, c'est des crânes avec des cerveaux, hein.
C'est ça. Mais comme quoi, l'intelligence et la musique de merde, ça ne va jamais de pair, puisque le seul moyen de les tuer, c'est de balancer un vieux spot, une vieille chanson des années 50, où le chanteur yodel, c'est insupportable. On peut comprendre.
Oui, mais ce qui permet d'avoir un effet visuel assez sympa avec la tête qui explose dans le casque, c'est très drôle.
Oui, d'ailleurs, il a repris des petites marionnettes qu'il avait utilisées pour Beetlejuice, en fait, les crânes rouges et verts, on les voit dans Beetlejuice en arrière-plan.
Donc, d'accord.
C'est bon, ça fait plaisir. Et puis, on a des effets spéciaux. On est en 96. Jurassic Park n'est pas encore sorti. On a des effets spéciaux qui sont faits par ILM, qui, à l'époque, en fait, dominaient le marché quasiment des effets spéciaux de synthèse.
Excuse-moi, je vais te contredire, mais Jurassic Park est sorti.
C'est vrai ?
Il est sorti en 93.
Déjà ? Ah oui, mince. Ah, je pensais que c'est 97. Ah ben, je me fais vieux. Eh bien, Jurassic Park est sorti, et donc ILM a surfé sur la vague.
Non, mais après, tu as raison.
Tu as raison.
Ils ont fait des images de synthèse. Le côté kitsch est volontaire. Et quand on regarde bien, même pour l'époque, ce sont de très bons effets spéciaux qui ont été réalisés pour ce film. Oui, l'interaction entre les martiens, et puis même si on voit le côté kitsch et images de synthèse, c'est très bien fait. C'est vraiment
c'est très bien. C'est très bien fait, mais il y avait un choix artistique supplémentaire, c'est que en fait, on ne savait pas trop faire de synchro labial sur les images de synthèse. C'est un truc hyper dur à faire. Enfin, à l'époque, on ne savait pas faire. On savait faire, mais de manière pas très réaliste. Et c'est ce qui a poussé Burton à garder le côté hack-hack, parce que ça, ce n'est pas compliqué à faire. Et du coup, ça, en plus, ça donne aux personnages... voilà, c'est un peu comme Je s'appelle Groot, quoi. C'est hack hack, mais on dit ce qu'on veut avec hack hack. Les sous-titres, c'est la porte de
Surtout que comment Pierce Brosnan développe un traducteur qui est terrible.
Voilà. Oui.
Ne courez pas, nous sommes vos amis.
Et donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film ? Quelques petits secrets de tournage encore. Si, le casino qui est détruit dans le film, qui était un casino qui s'appelait Landmark, qui était un casino qui appartenait à l'homme d'affaires Howard Hughes, Burton a été autorisé à filmer sa destruction pour le film. Voilà, et du coup, ce n'est pas une maquette, c'est un vrai casino. C'est quand même le luxe, ça, se faire sauter un casino.
Par contre, il ne tue pas pour de vrai Jack Nicholson dans l'explosion du casino.
Non,
pas c'est pour du faux. C'est pas...
voilà, c'est un film qui a coûté cher, hein, qui a coûté 70 millions de dollars. Burton était quand même dans sa période la plus créative. Oui. Ça, par contre, j'ai aucune crainte à le dire. Même si je trouve qu'il a... pour moi, il a fait d'autres très, très bons films. On en a déjà parlé, hein, mais Sweeney Todd, notamment, pour moi, reste un de ses meilleurs films.
Que je n'ai pas vu.
Ah, bah oui, mais tu es allé... Bah,
au comédie musicale, ouais.
C'est bien dommage. Un jour, tu le verras. Un jour, je te piégerai.
Oui, bah oui, il faudrait. Mais dès que je vois un acteur se mettre à chanter dans un film, j'ai envie de lui mettre une claque et puis dire, mais c'est sérieux là, arrête de déconner. Mais en même temps, je sais que la comédie musicale permet de faire passer des choses tristes de façon un peu plus
gay.
Enfin, c'est voilà. C'est... Mais j'ai beaucoup de mal, ouais.
Alors en fait, je vais finir là-dessus, mais ce film-là, là, Mars Attack. C'est un film que je revois tout le temps avec grand plaisir, même si je connais la fin, même si c'est une espèce de plaisir coupable. Enfin non, coupable non, parce que c'est du Burton quand même, faut pas déconner. Mais ça fait partie pour moi des très très bons films sur le sujet.
Ah oui, moi je.
Et des meilleurs Burton en fait.
Les répliques, enfin tout, la mort de Danny DeVito, enfin tout, la réplique de Pierce Brosnan. Qui dit au personnage joué par Sarah Jessica Parker, j'aimerais tant vous prendre dans mes bras, alors qu'il ne reste plus que la tête de Pierce Brosnan.
Il a sur un corps de chien.
Sur un corps, ouais. Ou alors, il y a plein. La tactique des militaires américains, c'est faut les tuer. Enfin, ouais, il y a plein de trucs où même Jack Nicholson, c'est un plaisir. Mais là, en plus, on l'a deux fois, et dans deux personnages complètement différents, mais tout aussi cons. Moi, c'est Glenn Close, elle est extraordinaire. Enfin, tout est Michael J. Fox. En fait, on est heureux de voir tous ces personnages, et on est vraiment très content de les voir tous crever. Ah, oui. Même la mort des personnages est bien, avec ce côté désintégration, et puis il reste juste des squelettes aux couleurs du laser qui les a touchés. Enfin, moi, c'est vraiment un film que... Et puis des répliques, en tout cas, ils n'auront pas la télé. Enfin, moi,
Moi, une des meilleures répliques du film, pour moi, elle vient des extraterrestres, c'est quand ils lisent le message, parce qu'ils ont le traducteur, où c'est quasiment « nous sommes venus en paix ».
Oui.
Elle les fait marrer. Elle les explose de rire.
Ouais. Après... Le film est très beau. Rien que le générique de début, moi, ça, où tu as toutes les soucoupes qui décollent de Mars et qui s'alignent, et on les voit en dessus, du dessous, en travers, qui se dirigent vers la Terre. Le générique de début, il est très bien.
Avec la musique de Danny Elfman.
Et puis Tom Jones qui chante comme dans un Disney avec tous les animaux qui se rapprochent de lui. Mais ça, c'est vraiment une perle, ce film. Moi, j'adore. J'adore Burton jusqu'à un certain moment, mais... Là, je pense que c'est un de ses chefs-d'œuvre, celui-là. Voilà. avec l'idée d'avoir pris Michel Pfeiffer pour faire Catwoman également. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment un bijou. Voilà. C'est... enfin, bon, bref. En fait, ceux qui s'en sortent, ce sont les gens qui... je ne sais pas, c'est un peu les plus... Ceux qui n'ont pas de réponse, en fait. Ceux qui subissent la situation. Eux, s'en sortent.
Ben c'est la radio, qui... c'est les ploucs hein, quand même. Parce que celui qui écoute la chanson qui yodel, peut pas... c'est un type qui tienne pour plein essence ou je sais plus, ou qui est employé dans un espèce de snack au milieu du désert. Enfin...
Ah oui, mais il y a Jack Black ça. Aussi. Il y a Jack Black qui est un militaire complètement crétin. Et puis le rôle de. Et la grand-mère. La grand-mère, elle est top, la grand-mère.
La grand-mère, elle est géniale.
Bref, c'est un film que j'aime un petit peu.
Et je regarde l'heure parce que je sais que derrière il y a une autre émission. Il nous reste un quart d'heure, cher ami.
Planète Rouge, ça va vite torcher. Hein. Voilà. Mais après, toi, d'accord. Je sais pas.
Bah, Seul sur Mars, ça peut aller assez vite.
Bah, on peut zapper Planète Rouge, hein. Ça se zappe ce film.
Ouais,
on fait Seul sur Mars.
On va en parler quand même. On fait Seul sur Mars. Allez,
ouais.
Tu l'as vu aussi. Seul sur Mars, donc, l'histoire. Alors, l'histoire est assez simple. Hein. C'est lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Watney, qui est joué par Matt Damon, est laissé pour mort par ses coéquipiers à cause d'une tempête, en fait, qui les oblige à décoller de Mars en urgence. Et en fait, sinon, il n'y aurait pas de film. Il a survécu. Et il est désormais tout seul et il doit être en autosuffisance pour survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Et il y a 225 millions de kilomètres quand même qui séparent Mars de la Terre. Donc, autant dire que mettre en œuvre des secours, ça prend du temps. C'est un film qui est complètement, quasiment porté par Matt Damon, il faut être très clair. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est un film de Ridley Scott. Donc là, encore une fois, on a un Ridley Scott en forme. Il sort de Prometheus quand même, où là, il n'était pas trop en forme.
Comme il y a l'équipe de Commence par Epic qui arrive, je pense qu'il s'était fait un claquage pour, pour Prometheus. Et une chute de vélo pour aller le convenant.
C'est ça. Bah, peut-être qu'en fait, oui, c'est ça, c'est peut-être les suites. Mais en tout cas, on a un Ridley Scott en forme. Il a utilisé d'ailleurs pas mal de techniques mis en œuvre dans Prometheus, qui là, pour le coup, servent une vraie histoire. Au casting, donc, je l'ai dit, Matt Damon, on a Jessica Chastain et puis Kirsten Wiig. Le casting est assez mince, en fait, hein, parce que on a Jeff Daniels aussi.
Il y a beaucoup de bons acteurs, mais on ne les voit pas beaucoup, en fait. Parce que c'est vraiment. Beaucoup, c'est
ouais. Tout est centré sur Matt Damon. Alors, c'est un film. Qui a quelques clins d'œil intéressants. Je me marre toujours. Parce qu'en fait, le film, on ne va pas le résumer beaucoup plus que ça. Il est sur Mars, tout seul, il doit être en autosuffisant jusqu'à l'arrivée des secours. Point.
Point.
Voilà. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que en faisant les recherches, je me suis rendu compte de plein de petites choses qui m'ont un peu échappé. Et c'est toujours un plaisir, quand on a aimé un film, de trouver des anecdotes qui nous ont échappé. Par exemple, le personnage s'appelle Marc, et Marc, c'est le diminutif de Marcus, qui en latin trouve son étymologie dans Mars. Donc le prénom du personnage principal est choisi de manière amusante.
Comment Ridley Scott est coutumier de ce genre de petits clins d'œil. Descartes dans Blade Runner, c'est Descartes, en fait. Mais,
Le film est adapté d'un roman en fait, de Andy Weir. Alors, il faut savoir que le roman d'Andy Weir n'a jamais trouvé éditeur au départ, quand Andy Weir l'a écrit, hein, ce premier roman. Donc, il l'a mis gratuitement à disposition sur son blog. Et c'est là où, en fait, la Warner l'a déniché et lui a racheté les droits. C'est quand même assez amusant, ça, de voir que certains éditeurs doivent maintenant se mordre un peu les doigts pour ne pas dire autre chose, d'avoir raté le coche, parce que en passant par un éditeur, ça aurait, à mon avis, été beaucoup plus bénéfique pour l'éditeur lui-même. Et qu'est-ce que je peux en dire d'autre ? Il y a d'autres petites anecdotes amusantes. Il y a un gros clin d'œil au Seigneur des Anneaux dans le film, qui m'a complètement échappé aussi. Puisqu'on a un acteur qu'on aime beaucoup tous les deux, hein, notamment pour ses morts absolument fantastiques, c'est Sean Bean, qui, à un moment donné, il y a une réunion avec les grands pontes de la NASA et c'est une réunion complètement secrète, et Kirsten Wiig, qui joue la directrice des relations publiques dans le film, s'interroge sur le pourquoi la réunion a été baptisée Projet Elrond. Et c'est Sean Bean qui lui répond, parce que c'est une réunion secrète. C'est exactement ce qu'on répond à Frodon lors de la réunion à Elrond dans le film La Communauté de l'Anneau. Et je trouve, c'est un petit clin d'œil, je trouve toujours amusant à dénicher. Petit Easter egg, comme on dit. Voilà, donc c'est un film, plutôt sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est le genre de film qui me fait un peu peur, parce que quand c'est des films avec des acteurs isolés, je pense à Seul au monde avec
Tom Hanks. que j'avais apprécié. Moi, j'ai...
Oui, bien sûr, mais il faut un très bon réalisateur derrière, quand même.
Oui.
Parce que là, on avait Robert Zemeckis pour C'est le monde, parce que sinon, ça peut être vite chiant, en fait. Et puis, c'est un autre truc qui est amusant, c'est quand même la deuxième fois que Matt Damon est laissé tout seul sur une planète, puisque dans Interstellar,
oui.
Il est aussi tout seul sur une planète.
Sauf que la solitude lui a un peu vrillé les neurones.
Voilà. Oui, mais voilà. Mais je trouvais aussi ce côté-là amusant de se dire Matt Damon, c'est le mec qu'on laisse tout seul, en fait. Vous avez vu Matt ? Non, on l'a isolé.
Mais c'est vrai que le film en lui-même n'est jamais ennuyeux. Alors que Damon, il est quasiment... Je ne sais plus combien de temps il dure ce film, il doit durer presque plus de 2 heures, je crois. Comment, Seul sur Mars ?
Seul sur Mars, c'est un film qui dure longtemps, tu as raison. 141 minutes, plus de 2 heures.
Ouais. Et moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi. J'étais déçu par la fin parce que j'aurais fait préférer qu'au lieu du ricochet improbable qui nous sort, en fait, il arrive à s'en sortir par ses propres moyens dès le départ, que ça fonctionne, quoi. Même si c'était déjà très gros. Après, je crois que scientifiquement, le film, c'est pas complètement déconnant non plus. Il y a quelques incohérences, mais globalement, c'est pas...
Bon, lié à la méconnaissance ou... Oui.
Ouais, c'est ça. Et puis, ça tient quand même la route par rapport à des films justement comme Ad Astra, qui est prétentieux, mais qui s'appuie sur que dalle. L'univers décrit est quand même vachement crédible au niveau des combinaisons, des unités de vie, tout ça. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis les paysages sont magnifiques. C'est,
ça a été tourné notamment en Jordanie, puisqu'il y a un désert rouge là-bas. Et puis le film a été notamment sur le comportement des vaisseaux spatiaux, a été écrit avec la collaboration de la NASA. Donc c'est pour ça que tout n'est pas totalement déconnant quand même.
Ouais, ça c'est bien parce que...
À hauteur de nos connaissances, hein, toujours pareil.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que normalement, on aurait dû être sur Mars depuis longtemps, d'après le plan qui est décrit. En fait, le plan d'origine, il est décrit en 2001, l'Odyssée de l'espace, le calendrier. En 2001, on devait aller sur Jupiter. Ouais. Non, c'est pas le cas. En 2017,
ouais. On n'a toujours pas trouvé la stèle de boue.
Si, on a eu cet été, non, des monolithes.
Oui, il y a eu des monolithes. Et puis, le film, effectivement, le film, il n'est pas si vieux que ça, hein, ce film-là. Il a quoi maintenant Seul sur Mars, c'est un film de quelle année j'ai perdu mon information.
Seul sur Mars de 2015. Il est sorti en France en 2015.
Voilà, on est en 2021, donc ça fait 6 ans. Il y a 6 ans, il avait retrouvé, Curiosity, mais pas Persévérance sur Mars.
Non.
Donc, voilà, c'est comme quoi parfois l'actualité peut foutre un coup de vieux d'un seul coup à un film.
Oui, bah, c'est un peu comme dans AI où à la fin on voit les tours du World Trade Center dans le futur. Ben non, c'est... Et pareil, c'est un film de cinéma, c'est un vrai film de cinéma.
Un vrai film de cinéma, complètement.
Et ça c'est un des atouts de quelques films quand même sur Mars, c'est que souvent on a le droit à des paysages assez extraordinaires. Je pense à Total Recall, je pense à Planète Rouge dont on ne va pas parler puisqu'on n'aura pas le temps, où les paysages sont plutôt réussis. Mais au niveau de ce qu'il y a sur Seul sur Mars, c'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Quoi. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'est crédible.
Il y a un autre grand film. Ouais, c'est vrai qu'on a, j'ai choisi Mars Attack et Seul sur Mars. Un autre film dont j'aurais aimé parler, moi, c'est John Carter, qui est quand même un film d'Andrew Stanton, hein, type qui a reçu un Oscar, hein, rien que moins que ça. Et qui n'a pas trouvé son public, alors que bon sang, mais enfin, si vous avez l'occasion de redécouvrir ce film, John Carter, faites-le parce que c'est un pur moment de cinéma aussi, quoi. C'est voilà, on va pas en parler ce soir, on en parlera peut-être. Ça fait partie des grands beats Disney non mérités.
Oui.
C'est voilà, avec un foutu casting, avec un très très bon réalisateur.
Et des effets spéciaux pour le coup en images de synthèse qui tiennent vraiment la route, quoi. C'est vraiment bien fait.
Ah oui, la CGI est très soignée. Enfin, c'est un film qui a malheureusement été un gros bide.
Qui a fait beaucoup de mal à Disney. Ils se sont récupérés depuis. Ouais. Ouais.
Alors, Andrew Stanton, pour la petite histoire, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le réalisateur du Monde de Nemo et de Wall-E. Hein. Donc voilà, c'est quand même pas un type qui attaque la science-fiction sans trop savoir ce qu'il fait, qui voilà. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Et puis, bah, des films sur Mars, il y en a d'autres. Hein. Tu as parlé de La Planète Rouge. Alors, Planète Rouge, un film avec Val Kilmer, hein, si je me trompe.
Oui, un film qui pêche par son scénario, mais que je trouve assez très bien par rapport à son casting. J'apprécie beaucoup Val Kilmer, mais surtout à l'époque, c'était comme quelqu'un d'assez important au box-office. Après, il avait une tendance quand même à montrer qu'il s'en foutait un peu dans ses films. Là, c'est un peu le cas. Mais il y a Terrence Stamp, il y a Carrie Anne Moss, il y a Tom Sizemore, enfin, tous les... beaucoup de bons acteurs de l'époque. Il y a le robot Ami ou Abby qui est très très bien aussi. Là, pour le coup, on ne le voit pas très souvent à l'écran parce qu'on sent que ça coûte cher en effets spéciaux, donc on le met un peu après. Mais c'est un mauvais film pour lequel j'ai de la sympathie un petit peu. Quoi. Voilà. Bah, pareil, un gros bide. Par contre, un film qui a coûté très cher et un très très gros bide. D'ailleurs, le réalisateur s'en est jamais remis, il n'a rien fait depuis.
Voilà. Alors, Anthony Hoffman, il a fait que des navets hein, en même temps, donc... pas très grave.
Voilà. Non. Mais ce qui est rigolo, c'est de voir tout l'équipement qu'ils développent sur Mars, qui est quand même relativement proche de ce qu'on peut voir dans Seul sur Mars. Voilà. Mm. Au niveau des combinaisons, tout ça. Ouais.
Et puis un autre film que tu avais bien aimé, toi, c'était, si mes souvenirs sont bons de ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est Capricorn One.
Non, j'ai dit que je ne l'avais pas vu. Mais que, en préparant l'émission, je me suis dit que ça m'intéresserait de le voir. C'est un film de Peter Iams,
un très bon réalisateur,
qui est un très bon réalisateur. J'adore Outland avec Connery, entre autres. Hein, il en a fait plein d'autres. Et donc Capricorn One, où ça parle d'une mission sur Mars en fait qui n'en est pas une puisque c'est filmé depuis un studio. Donc je l'ai mis dans ma liste de films à voir. Voilà.
D'accord. Alors peut-être un film aussi que je saurais conseiller, c'est Mister Nobody, même si le côté Mars est effleuré, mais qui est très très bien. Parmi les films qu'on déconseille de voir, il y a Doom. Oulala, ne regardez pas Doom.
Et ne regardez pas sa suite.
Ah, il y a une suite.
Il y a une suite, ouais.
Qui s'appelle Annihilation, c'est ça ?
Marqué des buts, et encore de très
c'est
très
ça.
C'était Olivier Rouillet. Eh ben, je crois qu'on est en train de nous foutre dehors.
Ouais.
Ouais, c'est pas prévu. Hein.
À chaque fois, ils nous font le coup, c'est genre, ah non, le micro était branché, mais on ne le savait pas.
Il y a toujours un gros malin à la radio.
L'équipe de Sport Épique qui arrive après nous, qui nous dégage proprement.
Et qui vous pose une question là sur cette science-fiction. Je vous entends parler de bide. Le Luc Besson et son Valhalla ou quelque chose comme ça là. Comment il s'en est remis lui? Parce que ça
Valérian.
Valérian.
Ça a fait un bide total.
Ça a fait un bide total. Faut savoir que c'est Luc Besson,
dommage.
Il est devenu meilleur gestionnaire que réalisateur. C'est-à-dire qu'avant que le film sorte, il s'était déjà bien remboursé. Voilà. Et partie de son remboursement, ce sont nos impôts. Voilà. Parce que Luc Besson, sur ce film-là, il est crédité en tant que réalisateur, scénariste, et je ne sais plus ce qu'il a encore comme casquette. Ce qui fait que même avant que le film sorte, il s'était remboursé. Voilà. Le film après, il a.
Histoire-là, ça fait polémique, mais moi, je ne partage pas tout à fait cet avis-là. En fait, il a réussi à obtenir de l'État français que les aides destinées au cinéma ne soient pas appliquées en fonction des budgets des films.
D'accord. Surtout.
Donc, il a pu avoir des aides. Voilà, mais ça ne l'a pas empêché de plomber son école de cinéma.
Voilà. Après, le film en lui-même, je crois qu'il est rentré, il a été amorti. Voilà.
Et le film est bon.
Non. Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai pas aimé.
Moi, je suis pas allé voir pour le coup. Mais ça me paraît dingue quand ils annonçaient le budget et quand ils ont parlé des entrées que ça a fait en salle, tu te dis, là, il y a un gouffre financier assez catastrophique. Ouais,
je crois qu'il a pas mal tourné en Chine, en fait. En Chine, il a fait quelques entrées et ça a bien fonctionné. Voilà.
Oh ça va, si ça tourne en Chine, comme ils sont 2-3 habitants là-bas, ça va.
Oui. Je ne sais plus quel film américain va avoir une suite grâce notamment au public chinois. Je crois que c'est Warcraft. Hein. Warcraft, toi, qui devrait avoir une suite grâce au public chinois, parce que le film n'a pas marché aux États-Unis.
Bon, si vous voulez voir voilà. des bons films de science-fiction, on vous renvoie à l'émission et puis on peut peut-être vous en conseiller un autre. C'est Mission to Mars de Brian De Palma, que moi j'ai beaucoup aimé.
Ok.
Moi pas.
Ah, mais je vais arrêter de faire des émissions avec toi, je vais le faire avec les mecs du foot, ils ont l'air d'avoir des meilleurs goûts musicaux, des meilleurs goûts.
Non, pas du tout, moi je déteste la science-fiction pour le coup. Donc,
quitte à regarder un De Palma, c'est pas celui-là que je choisirais. Quoi.
Ah bah non, voilà. Bien sûr.
Un film mais, avec une pandémie, ça peut être sympa. Hein
ah bah là, regardez 28 jours plus tard.
Et puis écoutez nos émissions de radio, parce que vous saurez qu'on l'a déjà fait.
Oui.
Ouais, bah voilà.
Eh bien, bon. Moi, je propose qu'on se quitte sur un petit morceau de David Bowie.
Ah oui. Ah bah très bien. Parfait.
Voilà.
C'est parfait du Bowie.
Ouais. C'est parfait, hein.
Ouais.
En tout cas, merci de votre écoute. Et merci. Puis, bah, bon sport à vous.
Oui. Voilà, merci les gars. Ouais. Merci, merci.
Vous allez parler de foot ça...
Ah bah là, on a une grosse passe Ligue des Champions, figure-toi. Ouais.
Ah bah je vais me chercher une bière alors.
Donc, c'est Ligue des Champions et Kerbrat à Guingamp, on va voir ce qu'il donne.
Bah, il est à Saint-Brieuc maintenant.
Pas de bol.
Ah, moi, je vais faire ce que je fais de mieux quand il y a du sport, c'est aller manger.
Bah, c'est pareil.
Ah, les mecs. Même Sana incorporé Sano, n'oubliez pas jamais ça, évidemment.
Ah ouais, non, j'oublie jamais Sano. Sano Mazo. Bon, allez.
Bah, bonne émission à vous.
Merci.
Merci.
Et
merci.
À bientôt. Merci, salut, Joël. Là. Salut.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? On America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to vote.